C'est parce qu'il n'était pas prévu de conserver les anciens manuscrits coraniques que, paradoxalement, nous en disposons aujourd'hui. Retirés dans des endroits où étaient placés les livres, disons, normaux, en bon état ou utilisables, parce qu'ils ne remplissaient plus les fonctions d'un livre qu'on pouvait précisément utiliser, ils ont été relativement protégés de l'utilisation et du recyclage qui aurait été leur lot s'ils avaient été écrits dans des écritures aisément lisibles. Comme nous l'avons vu précédemment, ils n'étaient toutefois pas à l'abri ni des parasites qui pouvaient les endommager, avant tout les reliures, le bois étant bien sûr un matériau qui attire certains parasites, ni de ceux qui avaient des raisons de faire l'effort de venir fouiller dans les lieux où ils étaient abandonnés. Chercheurs de reliques ou de curiosités graphiques, et plus tard, occidentaux en quête d'antiquité, soit dans un but scientifique, soit pour conserver un souvenir d'un voyage en Orient, avec ou sans l'aide d'intermédiaires locaux qui pouvaient tirer parti de ce trafic. Cela explique la dispersion d'une bonne partie du matériel, notamment en ce qui concerne le dépôt de Fustat, plus exposé que d'autres pour avoir été signalé le premier et pour se trouver dans un pays qui recevait sans doute plus de visiteurs, l'Égypte. C'est précisément de Fustat que provient le premier manuscrit du Coran que j'examinerai avec vous. L'essentiel de ce que nous en connaissons est réparti entre deux collections publiques, celle de Paris d'une part avec 70 feuillets, celle de Saint-Pétersbourg de l'autre qui en possède 26. Deux autres feuillets se trouvent le premier à la Bibliothèque Vaticane, le second dans la collection Nasser David Khalili à Londres. Cette situation fait que le manuscrit ayant perdu de son unité initiale, je l'ai rebaptisé Codex Parisino-Petropolitanus pour tenir compte des deux morceaux les plus importants. La partie parisienne du manuscrit figure dans un volume qui regroupe sous une même reliure des fragments provenant de manuscrits différents, comme le montre leur écriture. Toutefois, Michele et Amari avaient décidé de passer ensemble les feuillets 1 à 56 et 57 à 70, dont les écritures sont très différentes. Comme à l'époque où je me suis occupé de ce manuscrit, aucun argument ne permettait de décider en faveur de cette solution, j'avais finalement opté pour séparer les deux lots en rédigeant deux notices, une pour chacun des deux groupes qui sont devenus ainsi Arabe 328A et Arabe 328B. À la fin des années 90, l'évolution de la situation en Russie avait rendu plus facile l'accès aux collections conservées dans ce pays et j'avais pu me rendre à Saint-Pétersbourg où se trouvaient 26 autres feuillets du manuscrit, dans la collection Marcel, dont j'ai parlé la fois précédente. Parmi eux, certains présentaient la même écriture qu'Arabe 328A, d'autres, ayant la même origine, avaient en revanche une écriture proche d'Arabe 328B. Par chance, les fragments acquis par Marcel sont restés dans l'état où ils étaient quand il les a achetés, c'est-à-dire sans reliure et sans avoir été replacés dans une reliure, si bien que je pouvais examiner leur dos. Et comme les trous correspondant aux coutures de la reliure coïncidaient parfaitement entre les deux types d'écriture, il devenait clair que les uns et les autres avaient fait partie du même manuscrit. Les 98 feuillets qui constituent notre manuscrit correspondent approximativement à 45% du texte coranique, d'après la quantité moyenne de texte que nous trouvons sur chaque page. Et nous pouvons donc déduire que le manuscrit, à l'origine, devait compter entre 210 et 220 feuillets, ce qui signifie qu'il avait fallu entre 17 et 18 mètres carrés de parchemin pour le fabriquer. Dans l'état actuel de nos connaissances, rien ne subsiste du début et de la fin de cette copie, autrement dit des endroits où il serait possible de rencontrer des indications sur la provenance ou la date du manuscrit. Au 7e siècle, plusieurs décisions associées à la mise par écrit du Coran ont été faites. À aucun moment, semble-t-il, il n'a été envisagé de conserver l'usage rapporté par la tradition musulmane de copier des révélations sur des supports de fortune comme des pétioles de palme, des omoplates de chameau ou encore des pierres plates. De fait, des historiens ont fait l'hypothèse que la mention de ces matériaux hétéroclites représentait plutôt une condamnation des pratiques qui se sont développées sous les Omeyyades, et dont nous verrons bientôt des exemples, pratiques qui visaient à embellir le manuscrit par différentes techniques. Quoi qu'il en soit, Au moment de la compilation du texte, vers le milieu du 7e siècle, il est bien vite question de le rassembler, selon la formule arabe, « bayn el-ohayn », c'est-à-dire entre deux plaquettes de bois, c'est-à-dire les deux ais de la reliure traditionnelle, comme on la faisait à l'époque. Ici, les questions des plats, c'est parce que le livre avait donc la forme d'un codex, c'est-à-dire du livre tel que nous le connaissons, un modèle qui s'était progressivement imposé sur le pourtour de la Méditerranée au cours des 3e et 4e siècles de notre ère. Le choix de la forme du codex n'est pas absolument sans importance. Il a remplacé, peu de temps auparavant, le volumen, le livre en forme de rouleau déroulé horizontalement qu'on voit entre les mains de cet enfant sur ce bas-relief, et qui est resté en usage dans un cas très précis, celui de la Torah utilisée donc dans les communautés juives. Le support de notre manuscrit est le parchemin, l'un des deux matériaux utilisés à l'époque pour la confection des livres. Voici donc un futur livre sur pâte encore, mais c'est de là que vient le matériau. L'autre matériau, le papyrus, est bien connu des musulmans, mais il n'existe pas pour l'instant de preuve claire qu'il ait jamais été employé pour fabriquer un codex coranique, alors que des codex documentaires, c'est-à-dire des recueils de contes, par exemple, ou littéraires, sont conservés. Le parchemin est préparé donc à partir de la peau d'un animal, très souvent un mouton, mais pas nécessairement, et c'est le matériau commun à tous les manuscrits coraniques dont j'ai parlé jusqu'à présent et qui datent des trois premiers siècles. Et il a été après utilisé de manière moins importante au Xe siècle et s'est prolongé dans cet usage jusqu'au XIVe siècle en Afrique du Nord, qui constitue un peu une exception. Comme la base est représentée par la peau d'un animal, le parchemin conserve, si on ne fait pas très attention d'éliminer ces différences, ou si on n'utilise pas une peau d'un animal particulièrement jeune, le vélin, et la peau d'un veau mort-né, ou du moins utilisée très tôt pour faire du parchemin, il existe une différence sensible entre ce qu'on appelle le côté poil, c'est-à-dire là où se développe le pelage de l'animal, et le côté chair. Vous avez ici un Coran maghrébin du XIVe siècle, justement, où vous avez encore des racines de poils qui sont visibles parce que le parcheminier n'avait sans doute pas fait son travail jusqu'au bout. Le traitement n'élimine donc pas nécessairement toutes les différences entre les deux côtés, et il est donc habituel de les identifier quand on parle de ces manuscrits selon la façon dont les côtés poils et chair se succèdent, comme nous le verrons. Une feuille de parchemin telle qu'elle sortait des mains du parcheminier n'était bien sûr pas un rectangle, ça n'était pas un format A4 que nous pouvons acheter aujourd'hui, c'était une peau d'animal avec des contours irréguliers et la feuille conservait donc la mémoire de ce moment. Le travail après de celui qui fabriquait le livre étant bien sûr de lui donner une forme rectangulaire et donc de gaspiller un peu de matériel. Et là, nous trouvons une première limitation économique. C'est jusqu'à quel point convient-il de couper le parchemin pour avoir des bords francs ou de laisser des morceaux qui éventuellement n'étaient pas nets pour économiser un matériau qui était encore précieux. Souvent, vous lirez dans des notices ou dans des livres que les Corans étaient copiés sur des peaux de gazelle. On peut effectivement utiliser la peau de gazelle pour faire du parchemin, simplement les dimensions de cet animal font que les feuilles que l'on obtient sont de taille réduite. Et d'autre part, quand il s'agit par exemple d'avoir un manuscrit un peu important avec 220 feuillets, comme c'était le cas de ce manuscrit aux origines, cela suppose bien sûr de trouver beaucoup de gazelles disposées à collaborer à l'opération. Mais revenons au manuscrit. Dans leur état présent, les feuillets mesurent 33 cm sur 24 cm, 25 cm de large, c'est-à-dire une dimension assez honorable pour un manuscrit. Et les différences entre les côtés poil et chair, comme je vous l'ai dit, sont relativement évidentes. Si on oppose Par exemple, cette double page qui est le côté poil du manuscrit, on voit très bien la différence avec la double page suivante où vous avez cette fois-ci les côtés chairs qui sont face à face et vous remarquez que l'encre n'adhère pas de la même manière. Sur de nombreux feuillets, les bords naturels dont je parlais tout à l'heure apparaissent dans les marges. Ici, c'est dans la marge de gouttière, c'est-à-dire ici, vous voyez qu'il y a une petite courbe qui correspond en fait au bord naturel de la peau, ce qui veut dire que la personne chargée de préparer les cahiers, au lieu de couper à cet endroit pour éliminer ce genre de défaut, enfin, ça n'est pas véritablement un défaut, mais c'est une irrégularité, a décidé de la laisser. On peut en trouver d'autres cas où c'est cette fois-ci dans la marge inférieure, par exemple. L'angle ici n'est pas un angle bien net parce que nous avons ici l'amorce de cette petite irrégularité. Le manuscrit comprend également ce genre de défauts qui correspondent à des blessures de la peau quand l'animal était vivant. Et au moment de fabriquer le parchemin, quand on étend la peau de manière à la transformer en parchemin, ces blessures, par exemple une piqûre, un coup reçu, s'élargissent et donnent naissance à ce qu'on appelle des yeux qui se voient particulièrement bien. Dans le manuscrit, il y en a très peu, ce qui veut dire que le parchemin était quand même de bonne qualité, mais nous en avons néanmoins un ou deux exemples. Dans certains cas, on a même utilisé des feuillets qui étaient sans doute dès le départ endommagés. C'est le cas ici. Il y avait cet endroit, un défaut du parchemin, et au cours de la fabrication, il est possible que cet élément ait été déchiré. C'est d'autant plus probable que l'écriture, on le voit, suit la forme irrégulière de cette disparition, ce qui veut dire, encore une fois, que les personnes qui ont fabriqué le manuscrit ont essayé d'intégrer des feuilles de parchemin qui n'étaient pas de la meilleure qualité. L'emplacement de ces différents éléments, l'emplacement également de ce qu'on appelle les brisets qui apparaissent dans ce feuillet avec une sorte de série de petits points qui correspondent aux poils d'un animal, grosso modo dans les parties qui joignent les membres au corps, indique là aussi que le manuscrit a été fait avec des peaux qui ont été pliées en deux et coupées. C'est-à-dire qu'une peau donnait en fait quatre feuilles de parchemin. Je dis qu'elles ont été découpées et non pas pliées, comme c'est la tradition dans l'Occident à cette époque, parce que justement nous observons des cas où clairement les gens ont pris des feuillets venant de différents animaux pour les mettre ensemble et fabriquer les cahiers. C'est d'autant plus clair que la séquence des côtés du parchemin montre bien que les côtés ont été assemblés dans le bon ordre, sauf à un endroit où il y a une irrégularité qui montre bien que ça n'était pas simplement un pliage. On a des cahiers donc, qui sont systématiquement composés de la même manière, sauf ces exceptions auxquelles j'ai fait allusion, et ces cahiers ont 8 feuillets, tous, depuis le début jusqu'à la fin. Dans les rectos, le premier recto de chaque cahier est un côté chair, un côté poil, pardon, sur lequel l'encre adhère mieux que sur le côté chair qui est plus, plus résistant à la pénétration de l'encre. Il y a, comme je l'ai dit, une différence entre le début du manuscrit, c'était la raison pour laquelle je l'avais tenu à part, et la fin, les feuillets 57 à 70 de la Bibliothèque nationale de France. Mais cette différence n'est pas la seule du point de vue de l'écriture. Il y a également, à l'intérieur du bloc que j'avais appelé 328A, quatre mains différentes qui se sont succédées, ce qui fait que maintenant, nous pouvons dire que le manuscrit avait été copié par 5 personnes différentes, 5 copistes qui se sont associés à transcrire le texte. Leurs interventions s'inscrivent systématiquement sur des doubles pages, c'est-à-dire que quand on ouvre le manuscrit, on n'a jamais de différence d'écriture entre le verso du feuillet qui précède et le verso suivant. En revanche, les d'un recto à un verso, on peut avoir une différence, comme c'est le cas ici avec le feuillet 9, dont vous avez ici le premier, le recto, et ici le verso. Le recto est un côté, maintenant vous le savez, chair, alors que le verso est le côté poil. Le manuscrit donc obéit à une règle esthétique qui est visiblement très consciente de la part des intervenants, qui fait qu'il ne dépasse jamais, quand il s'arrête, le recto d'un le recto sur lequel ils ont écrit et laisse leurs collègues poursuivre sur le verso. Dans la partie qui est copiée par la main C, en revanche, on a du début jusqu'à la fin la même main qui s'est mise au travail. Les différents contributeurs ne sont pas tous à égalité. Les deux grands contributeurs sont le premier, la main A, et celui qui est responsable de la fin du manuscrit, la main C. Il y a deux petits contributeurs que j'appelle D et E, qui ont en fait copié un seul feuillet, et un contributeur moyen qui a copié deux ou trois feuillets à la fois. La régularité dans la disposition des écritures laisse penser qu'il y a eu un accord dès le départ entre les différents intervenants pour réaliser l'entreprise collective. Ce qui n'est pas toujours très clair, c'est jusqu'à quel point les consignes passaient de l'un à l'autre. Par exemple, en ce qui concerne le nombre de lignes. Le nombre de lignes dans le manuscrit est relativement souple, généralement au-dessus de 20, mais entre un recto et un verso, on peut avoir une différence substantielle, c'est le cas ici, où, vous le voyez, on a donc une relative homogénéité, 24 lignes dans les deux cas, mais entre le A et E, vous voyez qu'on a un saut assez brutal, A a copié sur sa partie 23 lignes, alors que E en a copié 27. Donc il n'y a pas une véritable continuité systématique. On observe une certaine continuité dans la façon de présenter les écritures, mais la mise en page peut varier. Ces variations, en ce qui concerne le nombre de lignes, laissent attendre également des fluctuations dans les dimensions de la justification, ce qui est effectivement le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un module constant de l'écriture, ça dépend du nombre de lignes finalement, et l'écriture peut être un peu plus haute ou un peu plus basse. Ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une inconsistance de la part des copistes conduit à se demander s'ils ont jamais pensé à préparer leur travail et en particulier à mettre une réglure en place, c'est-à-dire tracer des lignes qui leur permettraient de s'orienter et de rester à peu près dans les mêmes dimensions. Ce qui est très curieux, c'est que nous avons quelques feuillets où figure une réglure avec une pointe sèche assez limitée. Je n'en ai pas de photo parce que de toute façon, elle ne serait pas visible. C'est quelque chose qui est fait avec une pointe métallique et qui ne laisse une petite déformation du parchemin. En revanche, sur un feuillet, nous avons des traces de ce qui a dû être une réglure à l'encre qu'on voit ici. Mais vous remarquerez que cette réglure n'a pas été d'une efficacité absolue, par exemple, en ce qui concerne la marge de fond, puisque au lieu d'avoir une verticale qui serait parallèle à celle de la marge de gouttière, ici, nous avons des indentations qui montrent une certaine irrégularité. Lorsqu'on ouvre le manuscrit, le regard est attiré d'emblée par la quasi-absence de marge. C'est particulièrement net dans la marge de gouttière ici, un peu moins dans la marge inférieure, mais c'est également vrai pour la marge supérieure. La première idée qui vient à l'esprit, c'est que le manuscrit a été abondamment massicoté au cours des âges, à la suite de plusieurs interventions de reliure qui auraient chaque fois éliminé un petit peu de parchemin jusqu'à arriver pratiquement au contact de l'écriture. Il n'est pas douteux que les feuillets aient parfois été rognés au point de faire disparaître quelques lettres. Nous en avons un exemple ici. Vous voyez que ces lettres ont disparu, sans doute parce qu'on a légèrement recoupé le parchemin. Mais la présence des bords naturels de la peau que j'ai fait apparaître précédemment, ou encore d'accidents anciens dont l'écriture a tenu compte, comme on l'a vu tout à l'heure sur ce feuillet, montre que dès le départ, la copie du texte à occuper au maximum la surface disponible sur le feuillet. C'est une mise en page qui constitue une deuxième constante à l'intérieur du manuscrit et qui a sans doute été adoptée par le copiste en charge du début du manuscrit, et ses collègues ne se sont pas écartés de ce modèle, car quelle que soit la main, cette absence de marge se retrouve jusqu'à la fin du texte qui a été conservé. Et j'ajouterai que ça n'est pas seulement ce manuscrit qui montre cette caractéristique. Cet exemplaire se signale également par le fait que les espaces qui séparent les lettres, les groupes de lettres et les mots, sont approximativement de la même importance. À la différence en effet de l'habitude qui s'est progressivement introduite et régit encore de nos jours les textes en écriture arabe, qui établissent une distinction entre les blancs qui séparent les mots les uns des autres et ceux qui, à l'intérieur d'un mot, interviennent après les lettres qui ne se lient pas à celles qui suivent, les copistes de notre manuscrit se rallient à l'usage de l'époque et ne traitent pas différemment les deux. Il s'agit là, sans doute, d'une adaptation aux règles particulières de l'écriture arabe de la scriptio continua de l'Antiquité, c'est-à-dire cette habitude de l'Antiquité de positionner toutes les lettres à même distance, ce qui fait que le lecteur doit retrouver les mots. Alors, bien sûr, en arabe, les choses sont plus simples, puisque la ligature des lettres entre elles fait que, par exemple, ici, nous savons que c'est la fin d'un mot. Mais vous observerez que entre, par exemple, cette lettre, la suivante, et le mot qui vient après, l'espace est également le même. Donc il y a un traitement uniforme qui est tout à fait différent de ce à quoi nous sommes habitués. Cela va même plus loin. Vous savez que maintenant, il serait absolument impossible, sauf à passer vraiment pour un ignorant, de couper en deux un mot qui est écrit en plusieurs segments parce que les lettres ne s'attachent pas. Or, ici, vous avez à deux lignes un très bel exemple. Vous avez ici la lettre alif, la lettre de l'article al. Le lam est à la ligne suivante. Donc, le copiste a coupé le mot en deux segments, chose qui serait maintenant une faute grave. À la ligne suivante, vous avez le mot annas. Donc, vous avez le alif, le lam de l'article, le nun et un alif, et la lettre finale, elle est renvoyée à la ligne suivante, précisément parce qu'il y a cette espèce de faculté de traiter toutes les composantes de l'écriture de la même façon, ce qui, bien sûr, pour les copistes, est un énorme avantage dans la mesure où la gestion de la ligne est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas à réfléchir, si vous avez encore un mot très important à écrire, s'il faut essayer d'étirer pour le faire passer à la ligne suivante ou, au contraire, le compacter pour le faire tenir sur la ligne dont vous disposez. Donc, les mots peuvent être coupés à la fin de la ligne et, en revanche, il y a un autre point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est qu'on ne coupe pas des mots d'un feuillet à l'autre. Tous les feuillets s'arrêtent. Vous voyez ici, vous avez un mot, enfin une préposition, qui est à la fin de la page. On ne met pas la lettre suivante, même si le copiste aurait peut-être pu passer un alif supplémentaire à cet endroit. On s'arrête vraiment sur quelque chose qui a un sens. Donc ça, c'est aussi une règle que les copistes observent avec beaucoup de régularité. Le copiste donc s'arrange pour respecter la page, et cette unanimité est frappante puisque nous allons voir dans un instant, ils ont des divergences entre eux sur un certain nombre d'autres points. Voyons maintenant les caractéristiques de chacun d'entre eux. Donc le premier, le plus important, c'est le copiste A, qui a copié en tout 67 feuillets sur 98, c'est-à-dire pratiquement 70% de ceux que nous avons conservés. Alors bien sûr, les chiffres que je vous donne font un état du manuscrit dans l'état où il est aujourd'hui, mais il est possible que dans ce qui a été perdu, qui représente après tout pratiquement la moitié du manuscrit, on ait une distribution différente et que les petits copistes qui sont responsables de deux feuillets, D et E, est en fait copié davantage à l'origine. Mais malheureusement, nous n'en savons rien. A a donc joué un rôle décisif dans l'accomplissement de cette entreprise collective. Sa contribution n'est pas d'un seul jet, elle est interrompue en différents endroits par les copistes B, D et E. A est anonyme, nous n'avons pas de colophon. Seule sa façon d'écrire nous permet d'identifier ce qu'il a fait. Comme vous le voyez, donc, il est assez régulier, il sépare bien les lignes les unes des autres, il a cette habitude d'écrire les hampes en oblique, hein, c'est une caractéristique de l'époque, et il essaye, somme toute, de maintenir les lignes horizontales, ce qui, visiblement, n'est pas si facile que cela, dans la mesure où certains de ses collègues sont moins habiles dans cet exercice. Le trait semble relativement fin, mais c'est aussi la conséquence des lignes qui sont d'une taille assez importante, sans qu'on puisse dire qu'il est très très à l'aise pour tracer des lignes droites un peu importantes. Assez facilement, il a, quand il a tracé une ligne horizontale, tendance à l'incurver. A est aussi un utilisateur, ce qui devrait être le cas systématique, de points diacritiques. Ils ne sont pas très nombreux dans sa contribution, et très curieusement, ils ponctuent des lettres qui nous semblent assez simples. Le nun final, qui est identifiable, le dal, le ha, le dad, le hain ou le zai. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne met jamais de points sous la ligne. Les points qui permettent de reconnaître les lettres sont tous des points qui sont au-dessus des lettres. Pour séparer les versets les uns des autres, il utilise très systématiquement ces groupes de points pour indiquer donc la fin des versets. Il a considéré que la basmala était un verset, puisque, nous allons le voir dans un instant, il la ponctue de manière très systématique. Dans la partie dont il est l'auteur, auteur en tant que copiste, bien sûr, le copiste A laisse le nombre des lignes osciller entre 21 et 28, ce qui donc couvre à peu près l'éventail des nombres de lignes à l'intérieur du manuscrit. À trois reprises, B interrompt la contribution de son collègue A. Ça n'est pas pour une contribution très importante, puisqu'au total, cela représente 7 feuillets, c'est-à-dire 14 pages, soit moins de 10% du total. Comme vous le voyez, il a son propre calame. Il n'utilise pas le même instrument que A, mais un calame dont le bec est sensiblement plus fin. Il tend également à moins remplir ses pages que les autres. 6 d'entre elles comptent 22 lignes, 3, 21, ce qui est donc moins que ce que l'on observe chez A. On ne peut manquer de remarquer que, d'une manière générale, l'espacement du texte, et ça frappe sans être forcément très versé en arabe, l'espacement du texte, l'aération est beaucoup plus importante que chez A. Tout cela donne aux pages qu'il a copiées une disposition plus légère, à quoi contribue sans nul doute aussi le dessin de certaines lettres, notamment les formes finales du jim, presque toujours aplaties sur la ligne, ou des nun, qui font des lettres voisines, qui dessinent quasiment des demi-cercles, alors que, vous vous en souvenez sans doute, dans le cas de A, on a plutôt quelque chose qui a la forme d'un J. L'écriture est intéressante parce que c'est une écriture qui visiblement file sur le papier sans se soucier de cacher la ligature entre les lettres. Une apparence peut être renforcée par la relative minceur du trait. Comme son collègue A, il incline les lettres assez sensiblement, selon un angle de 20 à 30 degrés par rapport à la verticale, parfois même jusqu'à 35 degrés. Mais à la différence de A, il ne traite pas de la même façon le alif que le ta et le kaf final. Le lam a tendance à rester vertical, donc une petite différence de style, mais qui montre bien que dans la pratique de l'écriture, B a ses habitudes, de même que dans l'utilisation des signes diacritiques, où il ponctue surtout des nouns, comme son collègue A, mais il ponctue par exemple le bas, c'est-à-dire les lettres dont les points se trouvent sous la ligne, ce qui représente une petite différence par rapport à son collègue. Les séparations de versets, vous les voyez ici, elles ne sont pas des groupes de points disposés horizontalement, mais verticalement. On en a un exemple ici, un autre ici. Donc là aussi, c'est une sorte de signature de sa contribution. Ça n'est pas seulement l'écriture, mais aussi la façon de ponctuer les versets. À la différence de A, il ne considère pas la basmala comme un verset et ne met pas de ponctuation à la fin de celle-ci. Les 16 feuillets copiés par C, comme je le signalais au début, forment un bloc très homogène à la fin du manuscrit dans l'état où nous le connaissons. Avec la contribution de D, il révèle, selon moi, la présence au sein de l'équipe qui a transcrit le manuscrit de professionnels. Le trait, il y a en effet une qualité que nous n'avons pas rencontrée jusqu'à présent. Il est très régulier, très suivi. Le nombre de lignes à la page varie de 21 à 25, mais essentiellement, on trouve 22 et 23 lignes, ce qui est une relative continuité dans cette contribution. C, même s'il est sans doute plus habile à écrire, ne fait pas toujours preuve d'une grande attention. À de nombreuses reprises, il a corrigé ce qu'il avait écrit, peut-être parce qu'il n'était pas assez attentif au moment où il écrivait. La ligne de base reflète bien le mouvement de l'écriture, donc elle se range tout à fait dans le même groupe d'écriture que celle des autres contributeurs. Les astres, on le retrouve ici, sont inclinés de nouveau, même tendance que chez les autres, notamment avec un contraste avec le lame qui a tendance à être plus vertical. Vous voyez la façon qu'il a d'écrire le nom Allah avec l'alif incliné et les deux lames plus verticaux. Notre copiste utilise très rarement les diacritiques, puisqu'il n'a ponctué que trois fois dans toute sa contribution. Autant dire que le lecteur devait bien savoir l'arabe pour être capable de lire sa contribution sans connaître par cœur le texte coranique. Les versets sont généralement séparés par des groupes de quatre points, donc là encore, une pratique personnelle qui se distingue de celle des autres copistes. Et comme B, vous en avez un exemple sous les yeux, C ne marque pas la fin de la basmala comme si c'était la fin d'un verset. D est sans doute le copiste qui est le plus professionnel ou calligraphe des cinq hommes. Plus peut-être même que C, dont je disais déjà qu'il était professionnel. Son écriture est beaucoup moins fluide que les autres. Elle a tendance à être bien horizontale, bien régulière, se présenter comme une ligne continue. La base est beaucoup plus compacte de ce point de vue-là que celle de A ou de B. D est de ceux qui privilégient un plus faible nombre de lignes à la page, même si cette observation doit être prise avec précaution, puisqu'avec un seul feuillet copié de sa main, ça ne permet pas de faire des conclusions très générales. Les espacements, comme vous le voyez, sont très réguliers, le trait épais, assuré. Les astes conservent bien cette inclinaison verticale, mais elle est peut-être moins marquée que dans les autres contributions. Le lame final, comme dans d'autres cas, est vertical, et en revanche, le traitement de Allah est assez similaire à celui que nous avons vu chez C. L'emploi des diacritiques est difficile à établir dans la mesure où le texte est très limité. Il a surtout ponctué le noun, mais aussi le ta et le zaï, donc un emploi de diacritique qui correspond un petit peu à la tendance que nous observons en général chez les copistes comme A ou B. Les versets sont séparés par des groupes de points disposés en colonnes, dont on voit un exemple ici. Donc, encore une fois, une façon de faire qui se distingue de celle de ses collaborateurs ou de ses camarades, suivant ce qu'a été la copie, puisque nous ne savons pas si A était le chef d'équipe ou si D, qui était le plus professionnel, était celui qui organisait le travail. E est également un contributeur mineur à ce travail collectif tel que nous le voyons aujourd'hui. Comme D, il a seulement produit un feuillet du manuscrit. Mais à l'inverse des autres copistes, et particulièrement de C ou de D, notre copiste E paraît maîtrisait moins bien l'écriture. Cette appréciation repose d'abord sur le fait qu'à la différence de tous les autres, il a parfois tendance à faire choquer la partie supérieure des hastes avec la ligne qui est au-dessus. À plusieurs endroits, son trait rejoint cette ligne, signe qu'il était peut-être moins habile dans le maniement du kalam. Il est vrai, tendance à utiliser un nombre important de lignes, 27 et 28, donc l'espace dont il dispose pour une ligne est forcément inférieur que celui dont disposait par exemple D. Mais une comparaison avec un feuillet où la main A a également copié 28 lignes permet de constater que A est parfaitement capable de séparer soigneusement les lignes les unes des autres, alors que E, visiblement, ne le fait pas. Sa main trahit fréquemment un certain manque d'assurance quand il doit faire justement des mouvements d'élongation, soit verticaux, soit horizontalement. On ne peut pas savoir quelle était sa politique en matière de diacritique puisqu'il n'en a utilisé absolument aucun. Alors est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est parce qu'il faisait toujours ainsi ? Il est difficile de le dire sur la base de ce qui a été conservé. J'ai beaucoup parlé de diacritique et je veux faire une dernière remarque à ce propos. Vous avez sous les yeux donc une page d'une édition moderne du Coran et entre ces deux traits verticaux, l'équivalent dans le manuscrit qui nous occupe aujourd'hui. J'ai cerclé en rouge les signes diacritiques qui apparaissent dans cet espace et vous voyez d'emblée la différence absolument impressionnante qui existe entre la pratique de l'époque de notre manuscrit et celle du XXe siècle. Indépendamment de cette comparaison entre ces deux pratiques séparées par plusieurs siècles, les modalités d'utilisation des points diacritiques par les différents copistes méritent d'être soulignées. Je ne reviendrai pas tant sur la fréquence, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais sur les choix qui ont été faits par des hommes qui, de toute évidence, savaient que ces points faisaient partie du système d'écriture, permettaient d'identifier les lettres, puisque suivant la position, par exemple, d'un point au-dessus d'une indentation, ce sera un N, un Y, un Ta ou un Tha ou un Y. Donc, cinq possibilités pour un seul signe qui n'est finalement qu'on ne peut résoudre que si on a le point, à condition, bien sûr, de ne pas savoir le texte par cœur et de ne pas retrouver dans sa mémoire le passage en question. En tous les cas, indépendamment de la fréquence d'utilisation, vous voyez qu'il y a de temps à autre un accord sur certaines lettres, mais par exemple, certains copistes ne notent pas les lettres d'Ad, le Zal, le Rhaïn dans leur contribution, ou inversement, comme je le disais au départ, B est le seul à indiquer le B, alors que les autres estiment que ça ne vaut pas la peine. De même, le Y, le Ya, n'est pas indiqué sauf par B. Ce sont des points qui sont sous la lettre. Ce sont deux points qui peuvent avoir leur importance s'il s'agit d'un verbe à la troisième personne du singulier, puisque c'est ça qui va dire que c'est une troisième personne et non pas une deuxième personne du singulier ou une première personne du pluriel. Donc, le choix des points n'est pas absolument anodin. Et leur répartition nous invite à nous interroger sur la façon dont cette composante de l'écriture arabe était ressentie par les copistes de l'époque. La répartition des points diacritiques ne paraît pas refléter une décision particulière. Il est frappant notamment que des lettres qui, selon la tradition musulmane, ont été les premières à être distinguées, c'est-à-dire le ta et le ya, en fait, dans le manuscrit, ne le sont pas. Donc nous avons là quelque chose qui va à l'encontre d'une observation que nous connaissons par des auteurs postérieurs du XIe siècle. Un survol du manuscrit permet en outre de reconnaître chez A des passages d'activité intense. Ici, vous avez une page où, brusquement, il a décidé de mettre plusieurs points, alors que, sur les lignes suivantes, son activité de ponctuation diminue. Est-ce que c'est parce que le passage était particulièrement difficile à comprendre ? Ça ne semble même pas être le cas, c'est plutôt peut-être un réflexe, le sentiment qu'à cet endroit, il fallait faire quelque chose. Cette ligne donc, concentre un nombre de critiques, beaucoup de diacritiques plus important que la moyenne, sans qu'on sache très bien ce qui a guidé notre copiste. Nous ignorons d'ailleurs un point important. Est-ce que le manuscrit était une commande passée par un personnage important qui voulait avoir sa copie du Coran ou la mettre dans une mosquée? Mais même à supposer qu'il ait été réalisé collectivement pour l'usage d'une communauté par initiative personnelle d'un ou de plusieurs des copistes, il est frappant de constater que sur ce point qui est quand même important dans la mesure où il conditionne la bonne lecture du texte, il n'y a pas de normes pour régler le travail des cinq hommes. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce détail ? Tout simplement parce qu'il vient appuyer les premières observations que j'ai faites. Les copistes ont une approche hautement individuelle de l'écriture et la pratiquent chacun à sa manière, même s'il s'agit d'une tâche collective de copie du texte de la Révélation. L'emploi ou non des diacritiques va même un pas plus loin. Malgré les légères différences de forme de lettres, le répertoire fondamental reste identique pour les cinq hommes. Les points diacritiques ont une importance d'un autre ordre. Ils permettent de lire correctement, comme nous le rappelle la plaisanterie relative à l'un des lecteurs canoniques, Hamza, dont on dit qu'il lisait, enfin je vous le traduis en français pour ne pas vous infliger le texte arabe, il n'y a pas d'huile dans ce Coran parce qu'il disait Zaït, huile, au lieu de Raïb, doute. Bon, c'est une plaisanterie pour dire qu'il ne connaissait pas son Coran. Mais cette plaisanterie n'est compréhensible que si, à l'époque, il n'y avait pas de point et que du coup on pouvait lire les deux choses. Sur un exemplaire moderne du Coran, par exemple, le doute n'est pas permis parce que vous avez des points qui vous disent clairement que c'est Raïb et pas Zaït. Donc, c'est une situation de l'époque tout à fait réelle et cette anecdote donc, nous montre que les gens en tenaient compte pour les besoins de la cause. L'emploi parcimonieux des diacritiques peut s'expliquer par la possibilité laissée de faire usage de lectures alternatives en des points où les diacritiques, s'ils avaient été employés, en auraient imposé une. Ils peuvent aussi refléter une tradition dominée par des usages de l'écriture où le contrôle sur le message n'était pas encore perçu comme un élément capital. Il est vrai qu'en l'absence d'un système de notation des voyelles brèves, puisque, comme vous l'avez vu, il n'y a absolument aucune voyelle brève notée sur ce manuscrit, le contrôle sur la version écrite du texte ne pouvait être que réduit. Le contraste est d'autant plus saisissant avec la façon extrêmement cohérente avec laquelle sont indiquées les fins de versets. Dans l'état initial du manuscrit, les versets étaient en effet très soigneusement séparés. On a vu que chaque copiste avait sa propre façon de faire, son propre, presque une signature à la hauteur de la séparation des versets. Certes, à l'image de l'écriture, chaque copiste avait donc sa propre combinaison de points, mais ils avaient au moins ceci en commun de ponctuer les fins de versets systématiquement, même si C, que vous voyez ici, est un peu moins appliqué à le faire que ses autres collaborateurs. J'insiste sur ce point parce que dans les traditions manuscrites du Proche-Orient de l'époque, la ponctuation est employée de manière beaucoup plus limitée. En ce qui concerne les textes sacrés, Bible et Évangile, il n'existe pas d'équivalent de ce concept de verset tel que nous le rencontrons dans les anciennes copies du Coran, et cela en constitue véritablement une spécificité. Les versets, dans les versions plus récentes de la Bible, sont une introduction du XVIe siècle pour les Bibles occidentales. Dans la tradition hébraïque, il y a des indications de fin de section, mais ça n'a pas d'équivalent, ça n'est pas l'équivalent de ce que nous voyons sur le manuscrit. Donc il s'agit véritablement d'une spécificité coranique, quelque chose d'important pour ceux qui copiaient le texte à l'époque, et nous le comprenons d'autant mieux que nous voyons que les diacritiques, qui pour nous sont capitaux pour bien comprendre le texte, ne sont pas notés avec la même application. Une autre division du texte, autre que celle des versets, celle des sourates, est marquée par un espace laissé blanc. voyez là, la fin du verset de la sourate 70, et après une ligne laissée blanche, le copiste prend à la suite, et vous observez de nouveau la différence entre C, qui ne marque pas la fin de la basmala, et A, qui a introduit ici les trois points qui, pour lui, indiquent la fin du verset. Les titres des sourates étaient absents, mais vous voyez des traces d'encre rouge qui correspondent à un ajout postérieur pour indiquer le titre. Un ajout dont nous ignorons la date, puisque nous ne pouvons pas déterminer le moment auquel cela a été fait. En tout état de cause, la tradition manuscrite, depuis le début, reconnaissait donc la séparation en sourate sur les documents écrits, sur les manuscrits du Coran, même s'il n'y avait pas de décor à l'époque ou de titre pour indiquer cette différence. L'orthographe, et là je vais la traiter assez rapidement parce que c'est un point dont j'ai abondamment parlé par ailleurs, l'orthographe employée dans le manuscrit est archaïque, les A longs étant rarement marqués par l'écriture. Mais dans ce cas encore, et c'est intéressant, l'orthographe elle-même n'est pas la même d'une contribution à l'autre. Il y a des accords globaux, mais certains copistes traitent certains mots de manière différente, et ce, de manière tout à fait cohérente. C'est-à-dire que ça n'est pas une erreur ça et là, il s'agit de choses qui sont répétées dans leur contribution. Donc, ça n'est pas simplement l'écriture, ça n'est pas simplement la façon d'utiliser les diacritiques qui marquent la spécificité de chaque contribution, c'est également l'orthographe du texte coranique qui fait partie de ce lot de spécificités qui caractérise chacune des cinq contributions. Il existe, certes, au niveau de la codicologie, c'est-à-dire de la constitution du manuscrit, un certain nombre d'accords, surtout dans la portion qui a été copiée par A, B, D et E, qui est le premier bloc. Celle de C est un tout petit peu différente, on l'a vu, sur les façons de séparer les versets. Mais, encore une fois, cette homogénéité est plus au niveau de la matérialité qu'au niveau du texte écrit lui-même. En attendant que des analyses physico-chimiques nous fassent voir si, par exemple, l'encre utilisée par les différentes mains est la même, ce qui serait intéressant pour savoir comment ils ont travaillé, en attendant que ces mêmes analyses nous donnent des éléments de réponse sur la date de production et l'origine géographique du manuscrit, nous devons chercher d'autres moyens de répondre à ces questions. Comme je l'ai dit au départ, nous n'avons ni le début ni la fin, c'est-à-dire les emplacements mêmes où nous pourrions trouver des renseignements. Toutefois, la copie contient de menues particularités textuelles qui, selon la tradition musulmane, caractérisaient la copie que le calife Osman avait envoyée de Médine à Damas. Notre manuscrit aurait donc été préparé dans une zone au sein de laquelle était diffusée cette version spécifique qui se distingue de celle de Médine, de celle de Koufa et de celle de Basra. Malheureusement, cette conclusion, pour brillante qu'elle soit, ne nous donne pas le lieu d'origine dans la mesure où nous ne savons pas quelle était la diffusion de la version de Damas à cette époque. Donc, c'est un point sur lequel on ne peut guère progresser. La question de la date est peut-être un tout petit peu plus simple à résoudre. Grâce à un texte du Xe siècle, nous avons conservé cette très courte description des plus anciennes écritures arabes. Je cite « La première des écritures arabes fut l'écriture de la Mecque, et après elle celle de Médine, puis celle de Basra, puis celle de Koufa. En ce qui concerne les écritures de la Mecque et de Médine, leurs alifs sont tordus vers la droite de la main et étirés en hauteur, et leur apparence est légèrement inclinée. » En voici un exemple, et dans le manuscrit de Dublin, qui est le manuscrit sans doute le plus proche de l'original, pratiquement un facsimilé, nous avons un petit modèle d'écriture qui est supposé reproduire la basmala de ce type d'écriture. En écriture de Coran, poursuit le texte, celle de la Mecque, des Médinois, le Nîmes, le Muthallas, le Moudawwar, celle de Koufa, de Basra, etc., etc. Ce qui nous intéresse donc, ce sont les premières lignes, avec des caractéristiques qui correspondent bien à ce que nous observons dans le manuscrit qui nous occupe et se retrouve dans différentes contributions et d'autres manuscrits, comme cet autre feuillet qui est à la Bibliothèque nationale et dont une partie se trouve à Birmingham. Depuis le XIXe siècle, au moment où les recherches sur ces manuscrits ont commencé, on a proposé de dénommer ce style d'écriture Hijazi, du nom de la région au nord-ouest de la péninsule arabique où se trouvent les deux villes de La Mecque et de Médine. Ce style a sans doute été répandu dans le courant du VIIe siècle et sa parenté avec celle des plus anciens papyrus arabes datés avait été observée dès le XIXe siècle par Michele Amari qui écrivait, et je le cite, dans cette inclinaison des alifs, ici vous avez un exemple de cette écriture, dans cette inclinaison des alifs seulement consiste la différence entre l'écriture dont nous nous occupons, c'est-à-dire celle de ces manuscrits ce manuscrit que je vous ai montré, et les caractères du papyrus du Louvre écrit en l'an 40 de l'Égypte. Ayant examiné moi-même le papyrus en question, je suis convaincu qu'à l'exception des alifs et des lames perpendiculaires dans le papyrus et inclinés dans les fragments du Coran, les caractères se ressemblent autant que cela est possible entre un manuscrit de lettres confidentielles et de grands exemplaires d'un livre sacré destiné aux mosquées. Fin de la citation. Revenant un siècle plus tard sur cette question, Adolf Grohmann insistait sur le fait que cette écriture était une écriture séculière, proche parente de celle que l'on connaissait pour des documents ou des lettres du 1er siècle de l'Égypte. Faut-il pour autant dater très haut, vers le milieu du 7e siècle, le manuscrit qui nous intéresse? La courte contribution de la main D me semble indiquer que le manuscrit a été copié peut-être comme une autre copie dont l'essentiel se trouve aujourd'hui à Londres. Quelques feuillets sont dans le manuscrit arabe 328 de la Bibliothèque nationale. D'un moment où se met en place une écriture plus régulière, copiée avec un kalam plus épais. Ce moment pourrait correspondre avec celui où les Omeyyades ont manifesté leur volonté d'utiliser la langue et l'écriture arabe dans l'administration de l'Empire, ainsi que sur les monnaies. Il me paraît donc préférable de voir dans ce manuscrit un document un peu plus tardif réalisé autour des années 670. Cela étant, c'est bien sûr très peu de temps après la mise par écrit du Coran, si on accepte l'histoire de Haussmann, et en tous les cas, seulement une quarantaine d'années après la disparition de Mohammed. Ce Coran reflète les usages d'une période où la rationalisation des écritures, l'apparition de structures consacrées à leur apprentissage, ou encore l'émergence de l'idée qu'une écriture spécifique doit être réservée à la copie du Coran, n'ont pas encore transformé la production des manuscrits coraniques. Comme nous l'avons vu toutefois, avec cette contribution qui apparaît à l'écran, le mouvement est toutefois engagé auprès de copistes qui peut-être étaient plus modernes, plus avancés dans cette évolution. Les dimensions du manuscrit indiquent qu'il s'agissait d'une copie destinée à un usage public. Les cinq copistes qui ont transcrit le texte coranique ont repris un mode d'organisation du travail commun à l'époque, on le retrouve en effet sur plusieurs manuscrits, qui visait à disposer rapidement d'un exemplaire du Coran. Il est difficile de décider si cette hâte correspondait à la dynamique qui avait porté la communauté musulmane à donner corps à l'annonce d'un livre, telle qu'elle était faite dans la Révélation, ou si elle s'explique par la volonté d'imposer une version qui avait reçu l'aval du pouvoir face à des recensions qui soutenaient la version différente. Le texte qui figure sur le manuscrit est, grosso modo, le texte haussmannien. Et pourtant, même s'il se rattache à ce modèle, et même s'il est destiné à être utilisé par une même communauté, notre manuscrit trahit très clairement une situation où il n'existe pas encore de normes et où la marge de manœuvre laissée aux différents acteurs de la transmission du texte coranique reste substantielle. Comment ne pas penser, en voyant cette différence entre les cinq copistes, comment ne pas penser, mutatis mutandis, à ce que nous savons, par exemple, de la possibilité qui existait à cette époque de réciter le texte selon le sens et non selon la lettre. Visuellement, le Codex Parisino-Petropolitanus nous donne à voir en même temps l'accord qui existe entre cinq hommes attelés à la même tâche et d'autre part l'individualisme qui est le leur dans la façon de transcrire la portion du texte qui leur incombait. Je vous remercie.